Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
De Chavannes cherche copains. Mais c'est quoi ce truc?
Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, des hommes politiques. Attendez, on est allé jusqu'au président de la République, vous voyez. Des blogueuses, des blogueurs, des jeunes, des moins jeunes. Et puis des TikTokers. Alors, des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Ouais. De Chavannes cherche copains. Des copains. De Chavannes cherche copains. A tout de suite, les amis.
Blanche de Richemont, c'est votre nom. Mm-hmm. Vous montrez à travers le thème de votre bouquin qui s'appelle Allez, courage, un petit traité de l'ardeur, mais qui est en fait pas aussi petit que ça. Aux Presses de la Cité, et bouquin qui parle du courage sous toutes ses formes, et vous êtes allé à la rencontre de plein de gens pour ça, notamment. Il y a aussi des gens que vous n'avez pas rencontrés, hein, qui sont décédés, qui sont des grands auteurs, par exemple. Mais il y a des gens que vous avez rencontrés, et pourquoi est-ce que vous avez envie de parler de courage, Blanche de Richemont?
Eh bien, parce que je suis un peu étonnée de voir à quel point tous les gens vous disent bon courage toute la journée.
Alors, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas le dire, parce que c'est... faut pas dire bon courage, on a l'impression que tu es en train de dire à cette personne qu'il vit une tannée. Et moi, je ne le vis pas comme ça, figurez-vous. Moi, je dis bon courage à quelqu'un, parce que je trouve que c'est plutôt ambiançant, mais je dois me tromper. Et c'est drôle que vous parliez de ça, parce que c'était vraiment un thème de conversation que j'ai eu avec une proche, et où je trouve que dire bon courage à quelqu'un, c'est pas péjo, quoi. Ça ne veut pas dire « ah, bon, bah, bon courage hein. ». Ça, sur ce ton-là, d'accord.
Alors, la façon dont vous venez de dire « bon courage », c'est assez proche de « allez courage », vous envoyez de l'énergie, vous envoyez de l'enthousiasme.
Voilà.
La majorité du temps, c'est un peu...
Ah mais non, mais si c'est bon, bah, bon courage, mais là,
moi, l'autre
oui,
jour,
tu
attendez,
vas mourir.
Quand même, l'autre jour, je suis sortie de l'ascenseur et il y a un homme qui m'a dit « au revoir, madame, bon courage ». J'étais vraiment...
Ah non, comme ça, à blanc, c'est drôle.
Voilà, non, mais c'est tout le temps, en fait, qu'on entend ça.
Donc, bonjour, madame, bon courage, c'est rare, quand même.
Non, là, il disait « au revoir, madame, bon courage », parce que je sortais de l'ascenseur. C'est ça, la question. C'est est-ce que, inconsciemment, les hommes, actuellement, imaginent qu'on a besoin de courage tout le temps? C'est ça, la vraie question.
Ah, les hommes, en général?
Ah oui, les H. Les hommes et les femmes.
Oui.
Moi, je pense que si l'homme aspire à aller au plus haut de lui-même, aspire à être grand dans sa vie, il a besoin de courage, car il a toujours besoin de dépasser quelque chose, de dépasser les obstacles. Mm-hmm. En revanche, on peut vivre sans courage, vivre, se laisser
passivement.
Vivre passivement, être un spectateur, une victime.
C'est ça, en fait, c'est la différence entre l'activité, l'activisme et la passivité. Le pacifisme, non, pas là en l'occurrence, mais vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr, c'est une façon de prendre sa vie en main. Mmh. D'aller au plus haut de soi. Le courage, il aspire à toujours aller plus haut, en fait.
Donc, mais est-ce qu'il est volontaire, le courage, pensez-vous? Réfléchis, pensez.
Je ne crois pas que les gens qui ont eu du courage se disent « je vais avoir du courage ».
Non, moi non plus.
C'est une façon d'être au monde qui fait que c'est leur réponse à la vie est le courage.
Ouais. Alors, c'est là où je me pose la question. On ne peut pas en vouloir à ceux qui n'en ont pas, parce que, comme dirait l'autre, il n'y a pas l'égalité des chances au départ, on n'est pas tous fait pareil. Donc, les gens qui sont courageux, ils naissent avec. C'est leur nature.
Alors
profonde.
Déjà non, parce que vous avez des gens qui ont des vies pas du tout, ils sont pas du tout courageux, mais tout d'un coup il y a une guerre, il y a un événement, ils se découvrent courageux.
Et le après, peuple ukrainien.
Voilà, ou même des résistants, jamais on aurait cru. Puis après la guerre s'arrête et puis il y a plus personne. Donc déjà on ne sait jamais à l'avance. Et puis par ailleurs, je pense qu'il y a une éducation du courage. Je pense que le courage s'éduque. Il y a quand même une éducation qui
va
derrière.
Oui, vous avez raison.
On peut s'entraîner à avoir une façon d'être en vie qui fait qu'on réveille le courage, quoi qu'il arrive, et qu'on décide de ne pas subir. Voilà, le courageux ne subit pas.
Et donc, c'était important de le dire dans un bouquin?
Ben oui, Parce que moi, je suis un petit peu étonnée de voir à quel point notre société est toujours dans la plainte et la victimisation à longueur de temps.
C'est très français, non?
C'est très français, oui, peut-être.
Malheureusement, hein,
mais on n'est pas obligé de l'accepter. On peut essayer de faire de la résistance, justement.
Oui, mais on gêne beaucoup.
On gêne, on se plaint, on est victime.
Enfin, moi, depuis que mes enfants sont nés, je leur dis, les enfants, vous n'êtes pas au Yémen, vous n'êtes pas au Soudan. Puis là, on leur dit, on n'est pas à Mariupol, tu vois. J'ai l'impression qu'on est toujours obligé de dire ça un peu aux gens pour leur expliquer que c'est tellement dur ailleurs qu'il faut arrêter de geindre, quoi.
Oui, mais on sait qu'il y a pire que nous. C'est le chant d'oiseau qui est la réponse.
Il est venu pour vous. Vous avez soif de quelque chose, à part grandir votre être, votre fort d'intérieur? Vous voulez boire quelque chose?
Non, merci.
OK.
Mais c'est pas rien comme réponse de la vie, là, parce qu'au lieu de geindre, s'émerveiller. Parce que les personnes qui savent s'émerveiller...
T'as un rossignol.
Exactement.
C'est rare à Paris.
C'est très
80%
rare.
Des moineaux et des oiseaux à Paris ont disparu
et qui
à
les
cause
entend
de la pollution.
Et qui les entend, les oiseaux? Qui est assez à l'écoute de la vie pour entendre les oiseaux? Quand vous savez vous émerveiller, vous les entendez, c'est merveilleux.
Non, j'adore.
Mais quand vous savez vous émerveiller, vous êtes toujours sauvé. Si vous passez une journée de merde et tout d'un coup, vous avez un chant d'oiseau, alors tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'adoucit, qui se réveille.
Mais je pense que ça va avec l'oisiveté. Moi, je trouve qu'il y a... Moi, j'ai une propension magnifique à être oisif et à juste observer.
Oui, mais là, par exemple, nous sommes en train de parler et vous entendez les chants d'oiseaux.
Ouais.
Donc, vous n'êtes pas oisif pendant que vous me parlez. Enfin,
ah bah non.
Voilà.
J'ai un cerveau féminin, donc je suis capable de faire deux trucs en même temps. Alors, revenons-y.
C'est ça, la problématique, c'est la plainte et la victimisation. Et je pense qu'on peut aborder... Et d'ailleurs, les gens qui sont au Yémen et dans des situations très difficiles ou en Ukraine, ils ne sont pas dans la plainte. Hein.
Non.
Ils sont dans la puissance d'âme. Ils sont des âmes debout. Ils sont dans la force intérieure. Mmh. Ils ne sont pas du tout dans la plainte. La plainte, elle est peut-être un luxe. Parce que quand on n'a pas le choix, on ne peut pas se plaindre, on se lève, on se réveille.
Quand on peut se lever. Il y a des pays, malheureusement, les femmes notamment, ou des choses comme ça, regardez en Afghanistan ce qui se passe et tout ça, c'est très compliqué quand même pour elles de se lever. Enfin, celles qui se lèvent, c'est plus que des courageuses, c'est sublime, c'est magnifique.
Le problème des femmes afghanes, c'est que pour la majorité d'entre elles sont liées tellement à la racine qu'elles ne peuvent même pas considérer la vie sous un autre angle. En fait,
elles aimeraient bien, je crois, mais...
Je ne sais même pas si elles ne sont pas trop rognées, tellement blessées, brisées tellement à la racine qu'elles ne peuvent même pas imaginer autre chose de possible. À ce moment-là, c'est terrible. C'est pour ça que plein de personnes ont essayé de leur apporter de la connaissance pour leur montrer la possibilité d'un autre monde et qu'elles puissent donc se réveiller et se lever.
Mais là, j'ai rencontré des Américains l'autre jour qui sont en train de créer tout un logiciel avec des ordinateurs qui vont livrer en Afghanistan pour que les jeunes filles puissent se cultiver et s'éduquer.
C'est ça
parce qu'elles
n'ont
plus le droit d'aller à l'école.
Bah exactement, c'est ça les clés. C'est par la connaissance, et ils le savent bien que c'est par la connaissance qu'on peut se libérer des chaînes. Donc c'est pour ça qu'on veut leur enlever la connaissance.
C'est pour ça qu'il y a des enfants, moi, bien sûr.
Bien sûr. Bien sûr.
Alors, votre biblio et vos thèmes de prédilection, c'est quand même éloge du désert, éloge du silence. Bon, là, on est mal tombé. Éloge du désir, petit dictionnaire de la joie. Réveille-toi, cher cœur, réveille-toi. Tu as assez bien dormi, réveille-toi. Ça, c'est Shakespeare. Pourquoi est-ce que vous avez extrait cet extrait dans La Tempête de Shakespeare?
Parce que le mot courage est un dérivé du mot cœur. En fait, en français, le mot cœur et le mot courage, c'est le même mot.
Mmh.
Quand dans le cite de Corneille, Don Diac dit à Rodrigue, « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Il lui demande s'il a du courage. Donc, courage est un dérivé du mot cœur. Donc, avoir du courage, c'est avoir du cœur. Donc, pour réveiller le courage, il faut d'abord réveiller le cœur. C'est pour cette raison aussi qu'on ne peut pas dire bon courage, parce qu'il n'y a pas de mauvais courage.
Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des gens qui ont du courage et qui n'ont pas forcément beaucoup de cœur?
Eh bien, à l'instant où ils ont du courage, c'est leur cœur qui se réveille.
Okay.
Dans cet instant-là, c'est le cœur qui parle. Sinon, ce n'est pas du courage. Sinon, c'est de la témérité, de l'audace ou de la bravoure, mais pas du courage. Le courage, c'est la vertu du cœur, la puissance en acte du cœur. C'est avoir du cœur à l'ouvrage, donc de l'ardeur. Mais c'est toujours vers plus, un plus-être, vers de l'amour, vers quelque chose qui agrandit le monde, vers la lumière. Sinon, c'est de la bravoure ou de la témérité.
Et alors, vous estimez, vous avez fait une estimation, une espèce de pronostic du pourcentage de gens courageux au sein de notre société?
Non, pas du tout. C'est pas ma façon de fonctionner, mais
non,
surtout,
je sais.
Surtout moi je vous en parle là, j'ai écrit sur ce texte, j'en parle du matin au soir, je donne des conférences sur le courage dans des entreprises, donc je parle tout le temps de courage, mais qu'est-ce qu'on en sait à l'avance si on va avoir du courage? Si demain il se passe quelque chose de difficile, est-ce que je sais
c'est
si
bon,
je vais avoir du courage?
C'est bon, parce qu'on a parlé dans un podcast après-midi où si demain on parlait du patriotisme et des guerres... Et les gens qui deviennent résistants
Et mon oncle est mort à 23 ans en étant résistant, en dernier tué à la guerre, parce qu'il avait un courage formidable, qui s'est réveillé comme ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure notre pays, il y aurait une résistance, comme par exemple ce qu'on peut voir en Ukraine, qui est absolument incroyable.
Mais on ne sait pas avant de le faire. On ne sait jamais si on aura du courage à l'avance, comme on ne sait jamais si on n'en aura pas. Il y a des gens qui disent, moi si ça m'arrive, j'y arriverai jamais. Ben, ça leur arrive, ils y arrivent. On ne sait jamais.
Ah, en même temps, quand on part perdant, c'est pas
oui,
top.
Mais quelque part, quelquefois, il y a quelque chose qui se réveille en vous et vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'imaginer à l'avance. On ne peut jamais savoir à l'avance si on aura du courage ou si on n'en aura pas. Le courage, il repart toujours à zéro. Pour tout ce qui est essentiel, rien n'est acquis d'avance. L'amour n'est jamais acquis, le courage n'est jamais acquis, tout s'entretient, tout est un recommencement, une œuvre quotidienne, un chemin quotidien.
Et alors, votre livre, il est... philosophiquement, il est pour donner aux gens quoi ? Une incitation à un réveil, un non, oui, tu dois partir gagnant. C'est quoi tout ça ? Tous les exemples que vous donnez, alors je ne vais pas tous les citer, mais si, presque, hein, quand même. Je peux parler du boss du GIGN, je peux parler de, vous allez m'aider, de cette femme afghane qui se bat pour ses compatriotes de manière admirable. Shekeba Hachemi, on dit. Lucien Jean-Baptiste, le comédien, et de sa mère, une mère courage qui a élevé seule 6 enfants dans un appartement de 15 mètres carrés. Sylvain Tesson. Et qu'est-ce qu'il dit, Sylvain Tesson, de lui ? Qu'il n'est pas courageux ?
Alors non, parce que Sylvain Tesson m'a dit qu'il n'est pas courageux, parce qu'il dit « Je ne me suis jamais retrouvé avec un fusil sur la tempe en me demandant de choisir entre mon pays et ma famille. »
Mon Dieu.
Et pour lui, c'est ça le courage. Alors il dit « Moi, je... »
C'est ça le courage. Qu'est-ce qui serait le courage en l'espèce ?
Ah, de se retrouver face à cette situation et de savoir quelle est la réponse du courage face à ça.
Oui, ça serait quoi la réponse ? Ah, il n'y a pas de réponse, il n'a pas.
Je ne sais pas. En tout cas, pour lui, le courage, c'est à des moments où on est au bord de la mort et qu'on doit décider quelque chose. Mm-hmm. C'est le résistant qui ne va pas parler sous la torture.
Ouais, incroyable.
Enfin, je veux dire, donc lui me dit, oui, c'est pas parce que moi j'ai fait ce que j'ai envie, je ne me suis jamais retrouvée dans des situations atroces. Mais. Pour moi, le courage, c'est plutôt une façon de vivre.
Enfin, il est forcément courageux. Quand il va au bout du lac pendant 6 mois.
Alors,
tout
il
seul.
Dit le courage est contre nature. Parce qu'il impose à son corps quelque chose. Son corps, par exemple, lui dit ne monte pas cette haute cime immense, ne monte pas cette montagne, tu vas. C'est dangereux. Donc, le corps, il n'a pas forcément envie de se mettre naturellement. On ne va pas se mettre dans des situations qui peuvent nous coûter la vie.
C'est le mental après.
Et c'est le mental qui dit « Non, je vais quand même monter. Mmh. » Donc, il dit finalement « Le courage est contre nature. » Moi, ça m'a interrogée. Parce après déjeuner avec lui, je me suis demandé « Mais est-ce que je suis niaise ?» Parce que moi, je pensais que le courage, c'était justement l'écho même de notre nature. Je pensais que c'était la voix de l'âme, la voix de l'être des hommes au cœur de nous. Et puis, j'ai pensé à mes fils et je me dis « En effet, si on ne les porte pas vers le haut, en fait, il y a une déliquescence. Si vous regardez des écrans toute la journée, vous ne pas ranger leur chambre, il y a un laisser-aller. Si on n'éduque pas les enfants, il
oui,
y a un laisser-aller tout court.
Oui, bah oui.
Et en même temps, depuis la nuit des temps, l'homme a quand même aspiré à aller au plus haut de lui-même. Les peintures rupestres en témoignent, les pyramides. Enfin, il y a quand même eu une aspiration de l'homme à aller plus haut toujours. Donc finalement, ça répond quand même à la nature essentielle de l'homme que de s'armer de courage pour aller plus haut.
Alors je ne veux pas paraître ni rien, ni pessimiste, ni est-ce que c'est pas une minorité qui montre son courage, qui l'établit, qui en fait profiter les autres.
Je ne sais pas. Il y a aussi le courage invisible.
Est-ce que le fond de l'humanité est courageux ?
Mais peut-être qu'il y a le courage invisible des gens qui répondent à la vie de manière très simple. J'ai une femme qui travaille chez moi en face du pressing. Elle fait 1h30 de RER tous les matins pour y aller. Elle déteste son patron, elle déteste son boulot. Elle se lève à 5h du matin. Elle déteste son mari, qu'elle vient de quitter d'ailleurs. Et quand on avait tous le masque, elle enlevait son masque pour nous montrer son sourire. Je sais pas, mais moi, une femme qui a une vie aussi difficile tous les jours, où finalement, on se demande qu'est-ce qu'elle peut trouver comme joie, elle a décidé de répondre à la douleur de sa vie quotidienne, comme ça, par le sourire. Je sais pas, c'est des courages invisibles, mais
oui,
des
courages
quand même.
Tout à fait.
C'est pas la plainte, c'est pas la victimisation, c'est elle a une vie catastrophique, et pour autant, elle répond à la vie par un sourire. Donc il y a aussi ce courage invisible, ce courage d'être debout envers et contre tout. Parfois, il y a même le courage de se lever le matin.
Je confirme ça, oui. Vous parlez un hibou. Hein. Vous dites que ça m'interroge beaucoup parce que, évidemment, la peur, ça ne va pas avec le courage. Enfin, je veux dire.
Ah si.
Il ne faut pas que la peur prenne le dessus sur le courage parce que ça annihile le courage. Et vous faites un parallèle entre la peur et la mort en disant que la peur est plus forte que la mort. Alors là, il faut m'expliquer.
Ah oui. Non, mais c'est parce que je raconte une histoire. Je raconte l'histoire d'un homme qui était, c'était des soldats qui devaient passer une ligne. Et donc, il fallait qu'ils foncent tout droit pour aller de l'autre côté du champ. Et face à eux, dans le champ, il y avait des camps ennemis qui tiraient sur eux. Mmh. Et le gars, il a vu un chat noir, qui est donc une superstition qui porte malheur pour lui.
Tout à fait, oui. Enfin, pour tout le monde, je crois. Enfin, pour les gens, c'est
et donc, pour contourner le chat noir, il a couru en allant vers les lignes ennemies. Donc, en fait, il s'est mis...
En danger. Pire,
à cause de sa peur du chat noir. Et donc, ça m'a interrogée, ça. Et je me suis dit, c'est intéressant de se dire que finalement...
Et il s'en est sorti comment?
Ben, finalement, il n'a pas été tué. Il a réussi à... Ah, mais quand même, il a pris...
Et il a bien fait d'éviter le chat noir, alors.
vous avez raison, on ne sait pas. Mmh. Et je raconte une autre histoire qui est un peu dans le même acabit, où... c'est une histoire drôle, hein, qui n'est pas réelle, où il y a un homme qui veut se suicider, qui se jette d'un pont. Et puis il y a un policier qui passe et qui pointe le pistolet sur lui, il dit « Sortez de là tout de suite, sinon je tire !» Alors le mec a super peur,
il
alors
il
sort de
l'eau.
Oui, il est dans l'eau. Ouais. Et donc il sort de l'eau.
Ouais.
Au lieu de...
J'ai compris. Enfin, tout le monde a compris.
Donc, ces histoires racontent que finalement la peur est plus forte que la mort. C'est-à-dire qu'il y en a un à qui il sauve sa peau parce qu'il a eu peur. Mais ouais. Finalement, la peur a été plus forte que l'envie de mourir.
Okay.
Donc la peur prend le dessus en fait la majorité du temps dans nos vies, mais le courageux, la différence entre le courageux, il marche avec sa peur.
Allez-y, donnez-moi des exemples, il y en a plein dans votre
bouquin. Le lâche, il en fait un étendard. C'est-à-dire que par exemple, Amaury de Hautecloque, donc l'ancien dirigeant du RAID que j'ai interviewé et qui a dirigé le RAID pendant 7 ans.
Oui, j'ai dit GIGN, c'est RAID.
Oui, c'est le RAID. Il a dirigé le RAID pendant 7 ans et il me dit, mais déjà, quand je lui ai demandé, je voudrais vous interroger sur le courage, il m'a répondu, non, je n'ai pas du tout de courage. Et il m'avait proposé un rendez-vous un mercredi. Je dis, ah non, le mercredi, je joue à la mère parfaite. Il m'a dit, ah, il est là le courage, c'est ça le courage. Alors, je trouvais que venant d'un homme du RAID, c'était quand même un peu fort. Mm-hmm. Et il m'a dit, mais nous, en fait, on a toujours peur. Il dit, moi, j'ai toujours eu peur. C'est une constante qui m'a toujours habité.
La peur permet d'éviter les conneries.
Exactement, la peur est une alerte. Mm-hmm. C'est la peur qui sauve les hommes depuis la nuit des temps. Mm-hmm. La peur nous alerte quand même. Il dit, moi, je ne prends pas des hommes qui n'ont pas peur. Hein. Donc c'est important, la peur, pour être...
Oui,
sinon,
tout à fait,
inconscient.
Oui, non, mais tout à fait.
En
ça
revanche,
invite la conscience.
Voilà, ça invite la conscience. Ouais. En revanche, il y a les peurs qui paralysent. Et ça, comme dit la neuropsychiatre Sylvie Chocron, en fait, on peut avoir des périodes de sidération. C'est-à-dire que quand on sort de notre zone de confort ou de connu, on peut être sidéré, on est paralysé par la peur.
Ouais.
C'est comme un cauchemar où on a tellement peur, on ne peut même plus crier, on ne peut même plus agir, on est sidéré. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est la peur qui paralyse.
Oui, les femmes qui subissent, par exemple, une violence sexuelle ou des choses comme ça, elles sont paralysées par la peur. Très souvent.
Paralysées, exactement. On peut être paralysé par la peur. Mmh. Donc, la question, c'est comment être courageux quand on est paralysé par la peur. Il y a une réponse, qui est la réponse du samouraï. Tout simplement.
Oui, en toute simplicité. Je vous écoute. Quelle est-elle? Et un petit, même. Hein. Ben, samouraï.
Un samouraï, tout simplement.
Un vrai.
Je vous explique pourquoi. Parce que quand Sylvie Chocron m'a dit ça...
Donc ça, c'est la neurologue.
Voilà, la neurologue. Je me suis dit, mais chercheuse au CNRS, donc vraiment une grande pointure. Je me suis dit, elle a raison, parce que je n'y connais rien, elle a forcément plus raison que moi, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Car j'ai rencontré un homme en Inde, qui est un maître de l'humanité, un rishi, le plus haut stade des yogis, qui a passé 18 ans en silence dans l'Himalaya. Pendant 3 ans, j'ai fait des retours
auprès de lui. Il a passé 18 ans en silence dans l'Himalaya.
Et lui, quand vous êtes auprès
de
lui...
C'est un rishi, ça s'appelle.
Un rishi, les maîtres de l'humanité, c'est le plus haut stade des yogis en Inde.
Ok.
Et lui, Rishi.
Rishi, c'est ça, ce que j'ai dit.
R-I-C-H-I.
C'est ça, c'est
ça. Rishi. Et donc pendant 3 ans, j'ai fait des va-et-vient en Inde pour être auprès de lui, pour l'entendre. Et face à lui, vous avez la sensation d'être avec un homme qui a plus aucune peur, en fait, qui va jamais être sidéré, il a un autre niveau, parce qu'il est dans la paix. Et quand, en fait, vous avez enlevé la peur de votre vie, eh ben, vous n'êtes plus sidéré. Vous n'êtes plus la proie de la peur. Vous pouvez toujours avoir du courage. La courage peut être votre réponse. Il faut viser l'apaisement pour pouvoir être...
Donc, en fait, ça dépend des peurs, en fait.
Oui, il y a la peur qui est alerte, mais elle n'est pas paralysante. Voilà. Et donc, les samouraïs, c'est là que ça m'intéressait, c'est que le samouraï est un guerrier en paix. C'est-à-dire que vous êtes un guerrier, parce qu'on ne peut pas tous être un moine pendant 18 ans dans l'Himalaya.
Ils sont parfois des grands guerriers, les moines. Hein,
oui, c'est des grands guerriers, parce qu'il y a les guerres intérieures aussi à mener. Bien sûr, c'est des grands guerriers, forcément.
Voire pas terribles, même.
Oui, bien sûr. Mais en revanche, le samouraï, toute sa vie, c'est d'être dans le monde en étant un guerrier en paix. Donc la clé pour garder courage, quoi qu'il arrive, c'est de viser la paix, de s'apaiser.
Ça, putain, mais comment la trouver alors, cette paix? Moi, je suis un gars plutôt courageux, vous voyez. Je suis pas en paix du tout. Alors, comment je peux arranger ce bazar?
Oui, mais vous pouvez être très courageux. Par exemple, Amaury de Haute Cloque.
Ah non, mais lui, il est beaucoup plus courageux.
Non, pas du tout, oui, justement. Si. Il racontait que la même semaine où il avait fait la mission contre Mohamed Merah, cette même semaine, il avait dû mener une mission de père à la pension de son fils, parce qu'il était convoqué par le directeur de la pension de son fils. Il disait, finalement, je ne sais pas ce qui m'a demandé le plus de courage entre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être formé au courage dans un domaine, vous êtes dans le domaine de l'affect, il y a peut-être... Mener un raid contre des gens et puis le lendemain faire
pleurer,
face à la femme que vous aimez et ne plus avoir
ça...
de courage.
Ouais.
Donc la question de la paix, c'est comment être courageux à chaque instant de sa vie, pas que dans le domaine professionnel, intellectuel, à chaque instant de sa vie. Comment, à chaque instant de sa vie, notre réponse à la vie peut être celle du courage.
Pardonnez-moi, je ne parlais de rien en particulier. Je pense que je suis assez courageux par rapport à tout ce que j'ai vécu, parce que c'était quand même un énorme bordel ma vie, que ce soit professionnel ou privé. Et néanmoins. Tout ce bordel ne provoque pas forcément la paix, quoi.
Peut-être pas. Non, la question du courage n'est pas forcément qu'elle provoque la paix, mais peut-être que les moments où vous agissez avec courage, peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui est en paix, à ce moment-là. Sinon, vous êtes en réaction. Vous n'êtes pas en action. Pour qu'une action soit une réelle action fertile, elle part de quelque chose en soi où on est centré, où on est en paix.
Quand vous rencontrez des gens que vous ne sentez pas courageux, est-ce que ça vous arrive d'abord ?
De quoi ?
De rencontrer des gens dont vous dites qu'ils sont pas courageux.
Non, mais parce que ça veut rien dire être...
Phénomène.
Alors oui, ça m'arrive de gens... Alors, pour moi, la chose que je croise le plus souvent, c'est des personnes qui identifient un problème et qui ne cherchent pas à le résoudre. Donc, ils sont là. Et pour moi, ça, c'est un manque de courage. Par exemple, je sais que c'est pas bien, je sais que ça va pas, mais ils mettent pas tout en œuvre pour en sortir. Pour moi, ça, c'est une manque de courage, une forme de déni où on vit avec la
douleur. Tout dépend dans quel état mental on est. Si on est en dépression, on peut estimer que le manque de contrôle psychologique fait que ça annihile un peu les forces aussi.
C'est possible, mais il y a des gens qui, même en dépression, mettent quand même en œuvre
ce qu'il faut, bien sûr.
Pour essayer
les gens qui vont pas bien, qui vont mal, le seul truc que je leur dis, c'est moi, je t'en veux d'un truc, c'est de pas faire le travail pour
aller
mieux.
Exactement, voilà. On est d'accord. Pour moi, c'est ça le plus grand manque de courage que je vois tous les jours. Et je vois, je sais, c'est comme ça. Donc, ils sont dans une plainte comme s'ils subissaient. Voilà, c'est les gens qui subissent et qui se positionnent en victime. C'est pas ma faute, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de mon histoire, c'est à cause de machin, qui excusent leur faiblesse par un truc où ils se déresponsabilisent. Parce que le courageux, il est lucide. Il y a René Char qui disait « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. » C'est beau, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Ça veut dire que être lucide est une blessure, parce qu'il faut voir vrai en face, mais c'est celle qui nous rapproche de la lumière. Et quand on a vu en face, mais après, il faut mettre en acte. Et c'est vrai que ce déni, cette façon de s'arranger avec la réalité, de ne pas tout mettre en œuvre pour guérir, pour moi, ça, c'est un manque de courage, et ça, je le croise tous les jours. Comment ?
C'est plus facile.
Bien sûr que c'est plus facile.
Mais c'est plus douloureux aussi.
C'est plus douloureux parce
qu'à
long terme, vous vivez dans une forme de désespoir tranquille après. Vous savez, c'est des gens, vous avez l'impression qu'ils ont un brouillard autour d'eux. Après, moi, je pense que la réponse du courage, c'est comme ça, maintenant, je fais quoi ? Voilà la réponse du courage face à la vie, quel que soit le domaine.
C'est ce que vous avez toujours fait toute votre vie ?
Oui, mais oui. J'essaye d'être cohérente, mais encore une fois, demain, peut-être que j'y arriverai pas. Mais par contre, il y a aussi un courage à s'avouer découragé. Parfois, on n'a plus le courage du tout. Et là, ça c'est intéressant.
Quand on écrit, par exemple.
Parfois, on peut être découragé. Alors, moi, j'ai été écrire mon livre dans une cabane, dans le Morvan.
Où ça ?
Près du lac. Oui, c'est très beau.
Vassivière ?
Près du lac des Sétons.
Ok, bien sûr.
Voilà.
Tout près de Saulieu ?
Voilà, pas loin, exactement. Ouais. Et après, j'ai rien vu parce que je suis dans ma cabane.
Il y a une fenêtre.
Oui, mais j'ai rien vu de la région, je veux dire.
Vous avez loué une cabane ?
Oui.
Ok.
Et donc, en fait, j'y allais pour écrire mon livre sur le courage et finalement, j'ai eu le Covid et un Covid un peu dur. Et en fait, du coup, j'ai découvert plutôt le découragement.
Vous êtes guérie, là ?
Ah oui, c'est il y a quand même 2 années. Et en fait, j'ai découvert le découragement profond. Car quand vous êtes en hiver, sous la pluie, au moment du Nouvel An...
Vous l'avez eu là-bas ?
Oui.
Toute seule.
Je l'avais chopé avant et puis il s'est déclaré là-bas. Et quand vous êtes sous la pluie, en hiver, au moment du réveillon, où tous les gens qui s'aiment se réunissent
fracassé.
Et vous êtes toute seule, et que vous ne pouvez même pas sortir, marcher, qui pour moi est nécessaire, la nature, marcher, et rien d'autre que de rester sur son lit avec un étau dans la tête. Et en fait... J'ai découvert le découragement, je suis sortie de là, je ne savais même plus ce que c'était que le courage.
Oui, mais il y a un moment, quand on ne peut pas, on ne peut pas.
Voilà, exactement.
Il faut en prendre conscience.
Exact. Et alors, le courage, c'est de s'avouer découragé, de dire, là, je suis découragée. Et dans l'acceptation du découragement,
voilà.
Il y a une force surgit.
C'est une forme de courage.
Exactement, voilà. Une force surgit. Donc, L'inverse du courage, ce n'est pas le découragement, c'est le désenchantement. C'est se laisser éteindre.
Très bien.
C'est le cynisme et le désenchantement.
Ça me semble tout à fait, ça très bien.
Être découragé, c'est encore accepter, c'est la blessure plus proche du soleil. Et ben, au moins là-dessus, on peut être... Vous savez, moi, je passe ma vie à traverser le désert. Et je pense que la douleur, c'est comme
c'est
le désert.
C'est beau le désert.
Comment ?
C'est beau le désert.
Sublime. Ouais. C'est que vous ne traversez pas le désert, c'est le désert qui vous traverse. Donc, les traversées du désert intérieur, c'est elles aussi qui peuvent vous traverser. Il y a une initiation qui se crée là-dedans. Si vous le vivez pleinement, vous pouvez être initié par la douleur. Vous pouvez grandir d'elle. Vous pouvez apprendre d'elle. Une fois encore, vous posez en disciple des événements et non plus en victime. Vivre une épreuve initiatique. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je suis en train de vivre ?
Et vous le faites seul, ça ?
Ah ben oui, tout le temps. Tout le temps. C'est devenu, encore une fois,
et
comme le courage.
Vous pourriez partager ça ? C'est-à-dire, est-ce que c'est partageable ? Cette démarche, cet état-là.
Déjà, j'ai deux fils que j'essaye d'élever là-dedans.
Que vous emmenez avec vous ?
Que j'emmène avec moi dans le désert et j'essaye de les élever dans la voie du samouraï, du guerrier en paix.
Quel âge ils ont ?
Ils ont 8 ans et 11 ans.
Et alors ?
Et alors ?
Vous sentez que ça...
C'est plutôt à moi d'être un samouraï pour l'instant,
mais,
pour les gérer que l'inverse.
Mais... je connais, mais est-ce que vous pensez, vous sentez que ça prend un peu quand même ?
Ah oui, ils marchent dans le désert, ils dorment à la belle étoile à 4 degrés, il n'y a pas une plainte.
Oui, ça
bien
où ?
Sûr. Comment ?
Quel désert ?
Au Maroc.
Ok, magnifique. En bas ?
Du côté de Zagora.
Ok.
Voilà, à Ouarzazate,
Zagora. Ouais, Ouarzazate, en bas, ouais.
Voilà.
Et enfin, en bas.
Oui, j'essaye. Après, vous ne savez jamais ce que va faire l'éducation.
Pas
mais
très
en tout
loin
cas,
d'Algérie.
Ça se transmet, bien sûr, ça se transmet. Et pratiquer l'épreuve initiatique. Vous voyez, moi, j'avais emmené plein d'enfants dans le désert, des familles. Et j'avais demandé. Et quand je suis arrivée, il y avait un garçon de 18 ans qui était là. Tout blafard, avec les cheveux sur le visage, une capuche sur la tête. Je me suis dit, oh là là. Il n'avait jamais dormi par terre de sa vie, toujours vécu dans un grand confort. Il fumait des joints du matin au soir.
Enfin, ah, bourgeois.
Bourgeois, un peu paumé, quoi.
Oui,
et je me suis dit, franchement, ça va être rude. Hein.
Et c'était en fait, des volontaires ?
Oui, oui. Il a été poussé par sa mère,
d'accord,
pas mal, mais bon.
D'accord.
Il n'a pas dit non. Et en fait, il s'est révélé. Et quand j'ai dit à chacun des enfants, on va faire une épreuve initiatique... Et je lui ai dit, toi, tu vas dormir loin du bivouac tout seul, en plein désert. Le gamin, il a dit, je veux le faire tout de suite. Je lui ai dit, attends, c'est le crépuscule, je vais t'aider demain, on va faire ça ensemble. Il a dit, non, je veux le faire tout de suite. Tellement il était content de montrer ce qu'il avait dans le ventre.
Super.
Tellement il était content de se montrer capable.
Et ça, c'est quoi alors ? C'est un truc que vous organisez régulièrement ?
Ouais, j'organise des marches dans le désert. Alors, les familles, du
les
coup,
gens,
il fait
gens. Non, c'est bien ça pour les moments. Et il faut s'adresser où, comment ?
Une agence qui s'appelle Voyage Intérieur qui fait ça,
d'accord,
avec qui je travaille.
Ah, ok.
Et c'est une immense initiation pour les enfants.
Et vous partez toute seule avec les mômes ?
Avec les parents.
Ah, avec les parents
ouais,
aussi.
C'est en famille.
Ah, ok. C'est bien
en
ça.
Fait, ce serait peut-être plus facile sans les parents, parce que les parents...
Sûrement.
Les parents, ils confortent l'enfant dans une zone
ouais.
de confort. Mais voyez, l'autre jour, là...
Moi, quand j'étais petit, qu'on m'envoyait dans des homes d'enfants, sport d'hiver, les premiers jours, j'étais en larmes parce que j'avais ma mère au téléphone.
Non, mais si vous ne l'avez pas au téléphone, vous ne pleurez pas.
Voilà.
Et surtout là, vous voyez, j'étais avec un enfant qui était tout le temps sur son écran, tout le temps sur sa liseuse, qui était complètement voûté, livide. Et à la fin de la semaine, il s'est redressé, il a regardé, il a joué avec juste un bâton et un puits et
top.
Un bout de sable.
Top.
Quelque chose de la nature. Parce qu'en fait, ce confort nous enlise. On dit que l'époque est difficile. Tout
donc
monde
il faut le faire inconfortablement, parce que moi, je l'ai fait confortablement,
ce truc-là.
Avec
la
ma
base
fille,
du désert,
notamment. C'est
de c'est se passer de tout. On dort à la belle étoile, par terre.
Même pas, une petite...
Pas de tente. Avec moi, jamais la tente. C'est insulter le ciel.
Il fait froid quand même.
La vie. Mais si vous avez
deux degrés dans la classe. Hein.
Oui, mais c'est pas grave. Vous avez un bon sac de couchage, vous dormez avec un bonnet, ça va très bien.
Ouais.
Mes fils l'ont fait. Donc,
super.
Donc si vous dormez avec les étoiles, vous vivez le désert. Si vous dormez dans une toile de tente, vous passez à côté de l'enseignement du désert. Vous passez à côté de la traversée de la nuit.
Je suis vraiment un con, hein.
C'est pas un con, vous pouvez y aller demain.
Non, mais c'est vrai, je l'ai fait sous des tentes berbères parce qu'on pouvait même pas sortir faire public, je veux dire.
Quand vous avez pas le choix, vous le faites.
Donc en fait, là, ça s'apprend, donc le courage.
Mais ça s'apprend, ça s'éduque. Les traditions primitives, il y avait l'épreuve initiatique.
Les traditions.
Nous, il n'y a plus les traditions primitives.
Ouais.
Nous, il n'y a plus d'épreuve initiatique. Donc en fait, on renforce pas le psychique des enfants pour leur apprendre que l'épreuve est une initiation.
Mais les traditions primitives, c'était aussi des épreuves initiatiques. Il n'y avait pas le choix.
Non, elles étaient ritualisées.
Oui, mais il n'y avait pas le choix quand même.
Oui, mais elles étaient quand même ritualisées. Nelson Mandela, qui a dit cette phrase que tout le monde connaît,
je
ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il a vécu des épreuves initiatiques dans sa famille.
On lui a proposé de sortir de prison à condition qu'il fasse plus rien. Il a dit je sors pas.
Non. C'est mon peuple n'est pas libre, je ne veux pas être libre. Donc lui, il a été formé à l'épreuve initiatique. C'est ce qui a fait qu'il a pu. Mais vous imaginez cet homme qui a quand même planté un jardin potager dans sa prison de Rhode Island. Vous imaginez la réponse de la vie, de la puissance d'âme et d'être face à la douleur extrême. Donc c'est parce qu'il a été formé à l'épreuve initiatique. Si on nous forme plus, si nous on est dans le confort, tout va aller bien, on essaie de lisser tout, on n'est plus renforcé intérieurement. Donc pour avoir du courage, il faut être fort intérieurement et ça s'éduque.
Comment, vos parents, ils étaient comment avec vous ?
C'est vrai que moi, j'ai un peu été élevée dans une tradition où on ne se plaint pas. Quoi. On n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit de se plaindre. mais
et ça on vous faisait chier quand vous étiez jeune ?
Quoi ?
Ça
non,
vous
pas du tout.
Non,
non, non. On était dans le dépassement.
Ok, super.
Non, c'était une éducation.
Merci beaucoup. Je suis ravi de vous avoir vu. Surtout, je conseille de lire Blanche de Richemont. Vous êtes auteur, vous avez écrit plein de bouquins et vous avez surtout écrit, là on vient d'en parler, on s'est un peu distrait, mais on a beaucoup parlé du courage, Petit traité de l'ardeur, qui est à lire parce que... c'est ouvert à tout le monde, mais il suffit de s'en donner un peu les possibilités, en gros.
C'est ça.
Hein ?
Exact.
Merci d'être venu.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Et je chante même. Oui. De savoir chers copains. Des copains. De savoir chers copains.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.